Parado du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Merci d'écouter RFI Midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Avec à la une Donald Trump qui reporte la fin de son ultimatum sur les infrastructures électriques iraniennes.
Oui, c'était prévu pour ce soir, mais le président américain annonce un report de 5 jours. Il affirme que les États-Unis et l'Iran ont eu ce week-end des échanges très positifs et fructueux sur la fin, je cite, de nos hostilités. Ce matin, les pays du Golfe ont essuyé de nouvelles attaques, l'Iran aussi. Quant à Israël, il annonce une large vague d'attaques contre Téhéran. Nous ferons le point de la situation dans le pays avec Noé Pignède.
En France, les résultats des municipales d'hier, la gauche conserve les 3 plus grandes villes du pays.
Oui, Paris, Lyon et Marseille. Le Rassemblement National, lui, continue de récupérer nombre de petites villes ou de villes moyennes, particulièrement dans le sud. Nous irons d'ailleurs à Nice, dans ce journal, avec Charlotte Urien-Tomaca. Et puis la mort de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, l'initiateur des 35 heures, de la couverture universelle et du Pax avec 88 ans. Nous l'entendrons, toute la gauche n'a pas la même vision de son héritage.
Donald Trump reporte donc la fin de son ultimatum concernant les infrastructures électriques en Iran.
C'était prévu effectivement pour ce soir, 23h44, temps universel, une destruction de ces infrastructures si Téhéran ne rouvrait pas totalement le détroit d'Ormuz. Mais le président américain reporte de 5 jours la fin de son ultimatum, affirmant que, je cite, « les États-Unis et l'Iran ont eu au cours des 2 derniers jours des échanges très positifs et fructueux concernant une résolution complète et totale de nos hostilités au Moyen-Orient ». Ce matin, Paris avait réitéré son appel à suspendre les frappes contre les sites énergétiques. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie affirme que cette guerre pourrait provoquer la crise énergétique mondiale la plus grave depuis des dizaines d'années. Avec 11 millions de barils de pétrole en moins par jour, aucun pays ne sera épargné selon l'AIE. Anne Verdraguet du service économie de RFI est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Quelles sont actuellement les conséquences concrètes de cette guerre sur l'approvisionnement mondial en énergie et quelles solutions propose l'AIE ?
Eh bien, le bras de fer, Christophe, se situe actuellement autour du détroit d'Ormuz qui est bloqué depuis plus de 3 semaines maintenant et où transite en temps normal 1/5 du gaz et du pétrole mondial. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie demande sa réouverture immédiate, sans quoi l'économie mondiale est face à une menace majeure, car le manque d'approvisionnement entraîne une flambée des prix des hydrocarbures, possiblement durables, ce qui ravive aussi les craintes autour d'une inflation mondiale. Et même si le détroit d'Ormuz rouvrait, la production de pétrole et de gaz risque d'être affectée durablement en raison des infrastructures déjà endommagées dans la région. Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie.
Nous faisons face à un défi global et aucun pays ne sera épargné. Et je vais vous dire quelque chose. Même si une solution pacifique est trouvée bientôt pour le détroit d'Ormuz, nous sommes déjà en train de payer les conséquences des dommages sur les infrastructures énergétiques. Nous avons compté avec nos collègues à Paris. Il y en a 40 dans la région qui ont été fortement endommagés dans 9 pays différents.
Voilà le directeur de l'Agence internationale de l'énergie qui explique aussi que les 400 millions de barils de pétrole de réserve stratégique déjà mobilisés ne suffiront pas à résoudre cette crise et envisage de débloquer des réserves supplémentaires. Le baril de Brent reste au-dessus de $100 ce midi.
Merci Anne Verdaguet.
Sur le terrain, les pays du Golfe ont de nouveau été visés ce matin.
2 missiles balistiques ont été tirés sur l'Arabie Saoudite. L'un a été intercepté, l'autre s'est écrasé dans une zone inhabitée. Alerte aussi déclenchée aux Émirats Arabes Unis et à Bahreïn. Dans la nuit, Israël a de son côté annoncé avoir lancé une large vague d'attaques contre Téhéran. Selon l'agence de presse Fars, ce matin, les frappes ont touché le nord, le centre, l'est ou encore l'ouest de la capitale. Israël qui annonce aussi une intensification de ses opérations terrestres au Liban. Noé Pignette, bonjour. Au Liban, depuis le début de la guerre, les autorités locales recensent 1029 morts, dont 100 enfants.
Oui, plus de 1000 morts, hein, vous l'avez dit. Près de 3000 blessés, 1 million de déplacés vers le nord du pays. Ça représente 1/5 de la population libanaise. Et beaucoup pourraient ne jamais revoir leur village détruit méthodiquement par l'armée israélienne. Hier, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a promis de raser les localités libanaises le long de la frontière. Il prend l'exemple de Rafah et Beit Hanoun, des villes de la bande de Gaza annihilées par ses soldats. Le président libanais Joseph Aoun appelle à l'aide la communauté internationale. Selon lui, les frappes israéliennes sur les ponts du sud du pays sont le prélude d'une invasion terrestre, un scénario qui rappelle celui de la guerre de 2006, où déjà Tel Aviv avait bombardé un très grand nombre d'infrastructures avant de mener des incursions en territoire libanais. Le chef d'état-major de l'État hébreu confirme que son armée va intensifier ses combats contre le Hezbollah. L'objectif, créer ce que les Israéliens appellent une zone tampon, comprendre une occupation étendue et durable de la zone frontalière en violation du droit international.
Merci Noé Pignède. En Iran, l'organisation de défense des droits de l'homme iranienne RANA fait état de près de 3200 victimes, dont un peu moins de 1400 civils depuis le début de la guerre. En Israël, 16 personnes ont été tuées, majoritairement des civils.
Israël qui, après avoir bombardé avec les Américains le complexe nucléaire de Natanz, a essuyé une riposte de la part de Téhéran.
Oui, 2 attaques dans le sud sur les localités d'Arad et de Dimona, bilan 100 de blessés et les 2 missiles n'ont pas été interceptés par la défense antimissile alors que Dimona abrite un centre stratégique de recherche nucléaire. Israël, qui est considéré comme le seul pays doté de l'arme nucléaire au Moyen-Orient, reste toujours ambigu sur le sujet. Et si à Dimona, les habitants s'interrogent, ils sont très réticents à parler du nucléaire. Écoutez le reportage de Frédéric Misselin.
David est debout devant le cratère creusé par l'impact du missile. Lorsqu'on lui demande ce que l'Iran ciblait à Dimona, ce père de famille élude. Comme pour les autres habitants de la ville, la question est taboue. Possiblement un site nucléaire israélien, David répond sans répondre.
Dans les années 50, ceux qui nous ont aidés à construire ce que vous dites que nous avons, c'était les Français.
Israël reconnaît à Dimona l'existence d'un centre de recherche sur le nucléaire, mais n'a jamais admis avoir l'arme atomique. Pour Vanessa, avec la guerre, l'hypothèse d'un accident nucléaire est dans tous les esprits, mais personne ne le dit.
Je me demande s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui fait que Dimona a été touchée, mais j'en suis pas sûre à 100%. Il y a sûrement un point stratégique qu'ils veulent toucher. Bien sûr que ça fait flipper, on essaye de rester serein malgré tout. On a une confiance aveugle en notre armée, c'est ce qui nous rassure, on n'a rien d'autre en fait.
Nelly et son mari Gabi habitent à quelques kilomètres du site ultra secret et ils ont une autre analyse.
Moi, je crois que c'est plus un bouclier qu'une cible. Parce qu'ils savent qu'on a, si on a le nucléaire, enfin, ils savent pas, mais tout le monde a peur du nucléaire.
Si nous ne l'avions pas, dit Gabi en murmurant, alors Israël n'existerait plus. Frédéric Misselin, Dimona, RFI.
RFI Midi.
Et on se rend maintenant aux États-Unis où des fonctionnaires mis au chômage technique et des milliers d'autres continuent de travailler sans être payés.
Oui, depuis le 14 février, le département de la sécurité intérieure n'est plus financé. Un gel dû aux positions totalement opposées entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques de la police de l'immigration. Résultat, dans certains aéroports du pays, il y a des files d'attente de plusieurs heures pour cause de manquement de personnel de l'agence de sécurité dans les transports. Alors pour répondre à cette situation qui pourrait empirer, Donald Trump menace d'envoyer des agents de l'ICE dans les aéroports dès ce lundi, aujourd'hui donc. Et François Damien Bourgeries, cette décision a été confirmée par celui que le président américain appelle son tsar aux frontières, Tom Homan.
Oui, Tom Homan a annoncé que les agents de l'ICE seront déployés en priorité dans les grands aéroports, ceux où les voyageurs doivent parfois patienter plus de 3 heures au contrôle de sécurité. Les policiers de l'immigration effectueront de simples tâches sécuritaires, comme la surveillance des portes de sortie, a indiqué Tom Homan, un travail habituellement assuré par la TSA, l'agence de sécurité dans les transports, dont les agents pourront donc se concentrer sur les contrôles des passagers et ainsi réduire les files d'attente. Alors le tsar aux frontières de Donald Trump n'a pas précisé combien de policiers de l'immigration seront mobilisés, ni à quel rythme, ni pour quelle durée ils seront déployés. Mais la décision suscite déjà de nombreuses critiques. En cause, les violences commises par l'ICE dans le Minnesota après la mort de René Good et d'Alex Preti en janvier dernier. Pour le trésorier de la Fédération américaine des employés du gouvernement, un syndicat qui représente 50 000 agents de la TSA, la présence de l'ICE dans les aéroports pourrait les rendre moins sûrs en raison de la colère que la police de l'immigration provoque chez une partie de la population.
Merci François-Damien Bourgeries. Aux États-Unis, c'était aussi un week-end de discussions entre émissaires de Kiev et de Washington pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Des négociations saluées par le président Zelensky qui a quand même regretté que la situation autour de l'Iran ne soit le principal point d'attention de la partie américaine. En Grèce, ouverture puis ajournement du procès de la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière du pays, celle de Tempé. Une collision frontale entre 2 trains il y a 3 ans qui avait fait 57 morts. 36 personnes devaient être jugées à partir de ce lundi, mais le procès vient d'être ajourné en raison, je cite, de vives tensions dans la salle. On reste en Europe, au Royaume-Uni, où un quartier juif de Londres a été réveillé en pleine nuit par des explosions, 4 ambulances incendiées. Émeline Vin, vous êtes notre correspondante à Londres. Pas de blessés, mais la police traite l'incendie d'origine criminelle comme un acte antisémite.
Oui, Christophe, les ambulances appartenaient à l'ONG Hatzolah Northwest, une organisation juive qui fournit du transport médical dans le quartier de Golders Green, au nord-ouest de Londres. Après la mise à feu vers 1h du matin, les cylindres de certains véhicules ont explosé sous l'effet de la chaleur, brisant les fenêtres de certains appartements aux alentours. Le feu a été maîtrisé vers 3h du matin après le déploiement d'une 40aine de pompiers. La police recherche 3 personnes filmées par les caméras de surveillance du quartier portant des suites à capuche. Les autorités évoquent une attaque antisémite. Les services antiterroristes participent à l'enquête. Golders Green, c'est l'un des plus grands quartiers juifs de Londres et Hatzolah est clairement identifié comme une organisation juive. Le maire de Londres, Sadiq Khan, dénonce une attaque lâche. Le Premier ministre, Keir Starmer, adresse ses pensées à la communauté juive et rappelle que l'antisémitisme, je cite, n'a pas sa place dans notre société. Malgré une légère baisse en 2025, les incidents à caractère antisémite dans la capitale britannique, comme les agressions, les insultes, les tags, restent largement supérieurs aux chiffres rapportés par les associations avant la guerre à Gaza.
Merci Emeline Vin. En Slovénie, après les législatives de ce dimanche, le Premier ministre sortant, Robert Golob, revendique la victoire. Son parti a distancé d'un seul siège la formation de l'ancien Premier ministre pro-Trump, Janez Janša. Robert Golob a indiqué qu'il recevrait aujourd'hui tous les partis représentés au Parlement pour discuter de la formation d'une coalition. Et selon lui, les négociations pourraient durer un certain temps. Janez Janša lui a annoncé qu'il avait l'intention de recompter chaque voix dans tous les bureaux de vote.
Direction la France maintenant, la France au lendemain du second tour des élections municipales.
À 1 an de la présidentielle, la gauche conserve les 3 plus grandes villes de France, Paris, Lyon, Marseille. Paris, où l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati, rate la marche face au socialiste Emmanuel Grégoire, qui pourtant n'avait pas saisi la main tendue de LFI. D'ailleurs, dans le reste de la France, lorsqu'elles ont eu lieu, les alliances PSLFI n'ont été que rarement couronnées de succès. Pour ce qui est du Rassemblement national, il ne décroche pas de grandes villes, échec à Toulon, Nîmes ou Marseille, mais le RN continue de récupérer nombre de petites villes ou de villes moyennes, particulièrement dans le sud. Le sud où l'on retrouve notre envoyé spécial, Charlotte Urien-Tomaca, à Nice. Nice où Charlotte, l'allié du RN, Éric Ciotti, a remporté la mairie face à son grand rival Christian Estrosi. Et ce matin, le nouveau maire est allé à la rencontre des Niçoises et des Niçois.
Oui, dès 10h, le nouveau patron de la ville était sur le terrain et cette journée a commencé par un café partagé avec ses colistiers dans un café niçois typique de la vieille ville. Au programme ensuite un peu plus de 2 heures de déambulation à travers notamment le cours Saleya, célèbre pour son marché aux fleurs. Le nouveau maire très bien accueilli sur le terrain par les commerçants et les passants. Beaucoup de messages chaleureux de félicitations mais aussi des applaudissements. Et après avoir discuté avec des habitants, ce que l'on ressent c'est une volonté de changement et de renouveau pour la ville, de valeurs que semblait incarner Éric Ciotti pour ses électeurs. Ici à Nice, donc un pari personnel et politique gagnant pour le nouveau maire qui, après avoir choisi de tendre la main au RN lors des élections législatives anticipées de 2024, puis en fondant son parti l'Union des droites pour la République, a néanmoins fait campagne sans étiquette et aux côtés de personnalités niçoises diverses, comme par exemple Jean-Marc Governatori, partisan d'une écologie au centre, mais aussi des personnalités issues de la société civile, comme Jean-Pierre Rivière, président du club de foot de l'OGC Nice. Alors le nouvel homme fort de la ville est donc revenu ce matin auprès des journalistes sur cette alliance entre les partis de droite. Et ce qu'il explique désormais, c'est que le parti Les Républicains est mort, comme il le dit lui-même. Il pousse donc les militants LR à le rejoindre dans son parti l'UDR. Car pour lui, la nouvelle droite, c'est l'Union des droites pour la République, son parti donc. Des propos qui résonnent à un an de la présidentielle 2027.
Merci Charles Turien, Tomaca.
Et alors que les plateaux de radio et de télévision parlaient encore de ces résultats des municipales, on a appris la mort de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin.
Il avait 88 ans, on se souvient de son échec en 2002 à être qualifié pour le second tour de la présidentielle. L'ex-premier secrétaire du PS était entré en 97 à Matignon à la tête d'une majorité dite de gauche plurielle, Alliance socialiste, communiste et écologiste. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron parle d'un grand destin français porté par un idéal de progrès. Dans les hommages à gauche, tous n'ont pas la même vision de son héritage. Aurélien Devernois.
Lionel Jospin, seule référence politique citée par Benoît Payan lors de son discours de victoire à l'élection municipale de Marseille hier soir.
Lionel Jospin est quelqu'un qui m'a appris qu'en politique, soit on se répète, soit on se contredit. Je préfère être dans la première catégorie.
Un hommage à la constance en politique qui a poussé le maire de la cité phocéenne à refuser une alliance avec les Insoumis. Le patron du PS, Olivier Faure, retient lui une leçon bien différente de la défaite de Lionel Jospin à la présidentielle de 2002.
Lorsque la gauche se divise, et il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait des candidatures nombreuses à gauche. Tout cela a conduit tout simplement à ce que l'extrême droite remplace la gauche au second tour d'une élection présidentielle.
La division infuse toujours un quart de siècle plus tard. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon, qui a été son ministre de l'enseignement supérieur, salue la réforme portant à 35 heures le travail hebdomadaire, en opposition avec François Patria, également ministre du gouvernement Jospin, et devenu depuis une figure du macronisme.
Le bilan des années 97-2002 était un bilan positif. Hormis les 35 heures sur lesquelles moi je n'étais pas...
Des divergences idéologiques qui aboutiront à l'implosion du Parti Socialiste malgré le mandat présidentiel de François Hollande et à une gauche à la recherche aujourd'hui de celui qui pourra, comme Lionel Jospin, la réunir pour reconquérir le pouvoir.
Le mix de toutes les cultures, 99.1.
Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps. Le temps qui reste à tirer à Sing Sing, y a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui mais pas derrière des barreaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Le jour se lève sur Zing Zing, et que c'est le dimanche qu'on attend. On va voir l'orchestre de Sing Sing. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dans le sang. Sur la chaise, il fit trois petits sauts. Oh Sing Sing, oh Sing Sing. Ta chanson chauffe un peu trop. Et quand la nuit tombe sur Sing Sing, on revoit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de Sing Sing quand nos poules n'auront plus de dents. Pense-t-elle encore à nous en ce moment? Ou font-elles brûler nos photos? Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing. Jusqu'à demain, évidemment.
Gozar pra mim é assim, pra ser bom mesmo, de verdade, acho que gritando assim, sabe? Ah, ah, sabe?
Mas você sempre gosta, assim, gritar, com qualquer
gritar,
pessoa.
Gritar, pra soltar toda a energia, pra você ficar, ah, relaxada, entendeu? Tipo, ah, ah, gritando assim, sabe? Ah, ah, gritando assim, sabe? Ah, ah, gritando assim, sabe?
Bota na boca e bola, dança. Pega na minha balança, bota na boca e bola, dança. Pega na minha balança, bota na boca e bola, dança.
pour sauver la planète.
Alors pour cette quatrième émission en Camargue, après avoir vu un petit peu le travail des scientifiques, le travail de la réserve, comment est née cette réserve entre tension, entre agriculture, salin, chasseurs, après avoir vu l'enjeu touristique, après avoir vu les enjeux scientifiques, il y a vraiment une activité sur laquelle j'avais envie de m'arrêter un petit peu et rencontrer un agriculteur ou une agricultrice qui vivait sur ce territoire. Et donc je vous propose cette semaine de rencontrer Laure. Bonjour.
Bonjour.
Alors on est ici au MAS Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est l'histoire de toi, de ta famille dans cet endroit ?
Le MAS Saint-Germain, c'est un MAS typiquement camarguais qui est dans la famille depuis 1790, donc ça fait beaucoup de générations. Ça a été construit une partie avant, parce qu'il y a des parties qui datent du XIe siècle. On a la chance d'être arrivé difficilement, mais arrivé à conserver la majeure partie, pas la totalité malheureusement, mais la majeure partie. C'était un MAS qui faisait au départ, comme tous les MAS camarguais, entre 400 et 600 hectares, et qui en fait maintenant plus que 200, hein, droit de succession, la problématique que tous les agriculteurs français rencontrent par rapport aux taxes de l'État, et qui oblige chaque génération à devoir vendre une partie de leurs biens pour pouvoir payer leurs droits de succession à l'État. Ça, c'est très malheureux. Mais bon, nous, on est arrivé à garder quand même une bonne partie ici. Alors, c'était un MAS où il y avait probablement des moines qui travaillaient. On a quelques témoignages, notamment une immense écurie qui pouvait accueillir 15 chevaux de trait, qui est toujours là. Et donc, on en déduit par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a un immense four à pain également, beaucoup plus grand qu'un four à pain normal. Et que dans la propriété familiale, il y avait également un moulin. Donc on en déduit que c'était un lieu avec une grosse surface de travail agricole, probablement par des moines, hein, d'où le nom Saint-Germain.
Oui, les moines ont souvent, cisterciens en particulier, ont souvent se sont implantés sur des zones de marais qu'ils ont asséchées, drainées. Il y avait tout un travail comme ça autour de l'eau qui a peut-être été un travail pionnier ici.
Oui, très probablement. Et vous savez, en Camargue, le Rhône a beaucoup changé de lit, a beaucoup bougé. Et il y avait juste au nord de Saint-Germain un Rhône qui s'appelait le Rhône de Saint-Ferréol, donc qui n'existe plus maintenant. Mais c'était un endroit qui comportait beaucoup d'alluvions et très propice à la culture, très riche. Donc c'est tout à fait cohérent d'avoir toutes ces installations. On a un très ancien pigeonnier. Hein. Le pigeonnier, c'était important en Camargue, puisque ça permettait de nourrir... Quand il y avait peu de viande, ben les gens se nourrissaient avec les pigeons.
Hein. Et puis, ça faisait la colombine qui était un des engrais les plus prisés pour le potager.
Oui, tout à fait. Elle a servi pendant très, très, très longtemps. Et puis, on a la bergerie, cette immense écurie, tous les bâtiments typiques qu'on peut trouver dans les masses de Camargue.
Tu parles de bergerie, il y a eu du mouton mérinos ici, parce que ça a été une grande de la région d'Arles, une grande région où le mérinos a été introduit pour faire de la laine à partir du XVIIIe siècle justement.
Oui, alors ça c'est merveilleux d'avoir pu accueillir en Camargue cet élevage de moutons mérinos d'Arles, donc qui est une race qui a été vraiment, on va dire, fabriquée un peu pour le territoire arlésien et le territoire camarguais, qui s'est très très bien adapté. Et tous les MAS de Camargue disposaient malheureusement, je dois le mettre au passé, d'une bergerie et de prés, parce qu'il faut savoir que le pré, les prairies sont pour le territoire camarguais un espace naturel extrêmement important, très très riche en biodiversité, un espace irrigué très important hein, pour l'apport d'eau douce également. Et malheureusement, avec l'incident politique du Rainbow Warrior qui a eu lieu dans les années, je ne veux pas vous dire de bêtises, 86, quelque chose comme ça, bon, mais c'est cet incident politique qui a fait que le président Mitterrand a fait exploser le bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. Et pour se faire pardonner, les politiciens français n'ont trouvé rien de mieux que de proposer un marché où la viande de moutons, d'agneaux, néo-zélandais serait à des prix bien inférieurs.
Donc ça, c'est ton mari qui rentre du champ ?
Alors, c'est mon frère et ma nièce qui rentrent, qui viennent de donner le foin au taureau. On a eu un hiver très pluvieux et besoin de donner beaucoup de foin pour compenser les pâtures inondées. Il y a très peu de bergers qui sont arrivés à garder leur élevage